Et aujourd'hui, nous sommes à Noyon-d'Allier en Auvergne.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle étape de notre radio itinérante. Hier, vous étiez à Montalivet avec Aurélie Sfèze. Aujourd'hui, on vous emmène à Noyon-d'Allier en Auvergne. Ici, dans ce village de 700 habitants, le marché est assez petit. On compte ce matin seulement 7 commerçants. Alors là, il y a un maraîcher, il y a une fromagère, il y a même une dame qui tient un stand avec de la nourriture vietnamienne. Et on dirait qu'il y a un concours de chapeaux parce que chacun porte un chapeau particulier. La fromagère, elle a des petites peluches de vaches et de moutons sur le rebord de son chapeau. Et la dame asiatique porte ce chapeau conique typique des femmes vietnamiennes. Mais si on est venu dans cette commune, c'est qu'elle est pleine de contrastes et de surprises. Il suffit de faire quelques mètres pour s'en rendre compte. On voit de loin la cheminée de l'ancienne mine de charbon qui a longtemps fait la gloire de la ville. Les corons, ces petites maisons étroites à un étage, sont toujours habitées, mais plus par les mineurs. Mais la mémoire de ces travailleurs marque encore les esprits. En centre-ville, l'un des restaurants traditionnel vous propose encore un menu ouvrier à 14 €, 78 ans après la fermeture de la mine. L'autre particularité de Noyon-d'Allier se voit dès l'entrée du village. On est accueilli par un immense dragon jaune en métal. Il suffit de s'enfoncer encore quelques mètres plus loin pour découvrir une immense pagode et ses bouddhas géants. Car Noyon-d'Allier, c'est le plus vietnamien des villages français. Bonjour Caroline Nguyen.
Bonjour Antoine.
Vous êtes l'une des figures du village. Tout le monde vous connaît, vous et votre restaurant. Il fait d'ailleurs la jonction entre ces deux particularités de la ville. Votre restaurant s'appelle Le Petit d'Asie et il est situé rue de la Mine. Sur les 700 habitants de Noyon, il y a environ combien de personnes d'origine asiatique ici ?
On a tendance à dire que sur la population de Noyon, la population asiatique représente à peu près un tiers de la population.
Noyon-d'Allier est le témoin de l'intégration réussie. Vous en êtes d'ailleurs la preuve puisque vous avez demandé la nationalité française et vous avez changé de nom. Quel est votre nom vietnamien ?
Alors, mon nom vietnamien, c'est Nguyen Thuy Phuc Tuong. Et pourquoi j'ai changé ? C'est parce que lorsque j'ai pris la nationalité française, papa avait voulu qu'on soit intégré pour nous faciliter dans le monde du travail. Il m'a demandé de changer. Donc, pour faire plaisir à papa, je l'ai changé. Voilà. Mais il n'empêche que moi, je n'ai pas changé.
Caroline Nguyen, on va retracer avec vous l'histoire qui unit étroitement Noyon-d'Allier et la communauté vietnamienne. On s'intéressera aussi à l'énorme pression que subissent les maires des petites communes. On suivra aussi les traces d'un libraire à vélo. On découvrira également un café culturel itinérant. Et à l'heure de l'apéro, on va bien sûr savourer vos spécialités vietnamiennes, Caroline Nguyen. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais je vous préviens, moi je suis un fin connaisseur de la cuisine vietnamienne. On écoutera aussi de la musique traditionnelle du centre de la France. Mais avant, on va écouter Plum Blossom de Linh Xion Lan, un choix de notre programmateur musical en chef, Joe Bacar.
Yeah.
Place du Marché. Antoine Lee sur France Inter.
Vous écoutez Rendez-vous Place du Marché sur France Inter. Nous sommes ce matin à Noyon-d'Allier en Auvergne, un village français qui a un lien très fort avec la communauté vietnamienne. Elle représente près d'un tiers de la population ici. On a installé une table et des chaises au milieu de la place du marché. Nous sommes toujours en compagnie de Caroline Guyenne, la patronne du restaurant Le Petit d'Asie. À côté de vous, Henriette Neff nous a rejoint. Vous êtes toutes les deux nées au Vietnam, mais vos deux histoires sont totalement différentes. C'est important de le préciser. Vous ne faites pas partie de la même génération. Henriette, vous faites partie de celle des rapatriés, celle qui est arrivée à Noyon après la défaite des Français en Indochine en 1954.
Oui. Donc nous, on est arrivés en 1956.
Hein. 2 ans après, donc, la défaite de Dien Bien Phu.
Voilà, c'est ça. Enfin, c'était vraiment... On est obligé de partir, en fait. Voilà. Et puis, j'avais 3 ans quand on est arrivé ici.
Alors que vous, Caroline Guyenne, vous faites partie de la génération des réfugiés, celle qui est venue en France à partir de 1975, après la défaite des Américains face aux communistes vietnamiens menés par Ho Chi Minh. C'est bien ça ?
Oui, en fait, je me qualifierais plutôt d'enfant réfugié, parce que c'est papa, en fait. Il fait partie de la dernière vague des réfugiés, parce qu'après, le pays est considéré comme stable. Et il a quitté le pays en 85. Il est arrivé au centre des réfugiés à Hong Kong, et après, il a demandé l'asile en France. Et donc, il nous a fait venir par regroupement familial.
On va commencer avec vous, Henriette. Vos parents étaient français et vietnamiens ?
Oui, ma mère est vietnamienne d'origine chinoise et mon père est français de La Réunion.
Il faisait quoi, votre père, en Indochine ?
Alors, mon père était dans la marine marchande. Il était mécanicien, chef mécanicien. Et ensuite, après, il est rentré dans la police au Vietnam, avant de rentrer en France.
Pourquoi il y a eu autant de Vietnamiens qui sont arrivés ici, à Noyon-d'Allier, après la défaite d'Indochine ?
Il y avait des mineurs. Ensuite, après les mineurs, on sont partis. Et le village a été déserté. Enfin, voilà. Le maire a voulu redynamiser le village. Et donc, voilà, on a été... il y a plusieurs Eurasiens qui ont été diffusés un peu dans la France. Mais nous, on est arrivés ici...
Parce qu'il y avait de la place.
Il y avait de la place. Il y avait des corons, en fait, où les mineurs étaient. Donc, c'était désert. Et donc, il fallait... réoccuper ces logements.
Mais en tout cas, il y avait une forte solidarité pour accompagner et pour favoriser leur intégration.
Non, adaptation.
Pourquoi c'est important pour vous ? Pourquoi vous êtes en colère ?
Je déteste ce mot intégration pour nous. Parce que nous, déjà au Vietnam, nos pères étant français, on avait déjà cette culture française. Donc arriver ici, il fallait s'adapter sans plus. Mais intégrer, non.
Vous, Caroline Guyenne, vous êtes arrivée à l'âge de 11 ans en France. Vous vous souvenez de votre premier hiver à Noyon ?
Oui, parce qu'on était au foyer d'accueil donc à Chantonnay-Saint-Imper. Et alors que papa nous a prévenus, on était en thon avec nos chemises. Et puis quand la neige tombait, on était allés en thon pour toucher la neige parce qu'on n'a jamais vu dans ma petite campagne. Et on a trouvé ça marrant. Mais au bout d'un moment, ça faisait quand même froid, quoi. Mais oui, ça m'a beaucoup marqué. La neige, on a découvert. Enfin, j'ai découvert à l'âge de 11 ans.
Alors, Henriette insiste sur le mot adaptation et non pas intégration. Vous partagez ce sentiment-là, vous, ou pas ? Vous qui êtes arrivée plus tard ?
Pour ma part, étant arrivée en France à l'âge de 11 ans, je savais que pour moi, c'est une chance, que la France est un pays d'accueil. Donc, je mesure, en fait, la chance qu'on est ici. Donc, quelque part, l'intégration ou l'adaptation se fait naturellement. Parce que pour nous, c'est important de s'intégrer, s'adapter dans le pays, la culture, le pays qui nous accueille, en fait. Donc, quelque part, moralement, on ne se pose pas à tel point que papa a voulu même me faire changer de nom de prénom. Vous imaginez, mon père, qui est très croyant, pratiquant, a demandé ça. Donc non, je comprends parce que bon, derrière chaque mot, il y a un sens. Mais pour ma part, c'était pour notre famille, en tout cas, c'était naturel.
Henriette Neff, au milieu des années 60, il y a eu un pic ici au niveau du nombre d'habitants. Il y avait 2300 habitants à Noyon, dont près de 1300 habitants d'origine asiatique. À l'époque, il y avait plus d'enfants asiatiques à l'école de Noyon que d'enfants français de souche, entre guillemets. Elle ressemblait à quoi, les photos de classe ?
Ben, c'était drôle, quoi, en fait, parce que oui, il y avait des enfants polonais, d'origine polonaise aussi, hein, issus des mineurs qui étaient restés aussi. Donc oui, il y avait tout un mélange d'enfants et c'était très bien. Et là aussi, il y a eu beaucoup de solidarité entre les enfants. Voilà, il n'y a pas eu d'enfants qu'on ne voulait pas. Ça faisait une unité, en fait, d'enfants.
Mais lorsque vous êtes entré au collège, que vous êtes parti à Moulins, à 20 km d'ici, ça s'est un peu gâté pour vous.
Il n'y a pas que pour moi, c'était différent. C'était complètement différent. Là, on était comme protégés, en fait.
Ici, à Noyant.
Oui. Mais là, on a découvert qu'en dehors de Noyant, on nous différenciait, en fait. Voilà, on nous différenciait.
De quelle façon ?
Le racisme.
C'est-à-dire, ça s'exprimait comment ?
Eh bien, par des mots blessants, je vais le dire, shintok, voilà.
Et comment vous avez réagi à l'époque, lorsqu'on vous envoyait ces insultes-là ?
Moi, j'étais très en colère.
Vous bagarriez contre les gens qui vous insultaient ou pas ?
Oui.
Pardon ?
Non. Oui.
On sent que vous avez du caractère. J'ai pas de problème pour l'imaginer.
Non, j'étais très en colère, moi. Ouais. Je ne comprenais pas pourquoi, au Vietnam, on nous a demandé de partir. Et arrivé ici, nos pères étant français, on nous traite... on ne savait pas où se situer, en fait. Voilà, c'est comme un peu l'histoire des harkis. Pour certains, c'était quand même assez difficile, quand même. Voilà.
Quand vous reveniez à la maison, vous disiez, tiens, aujourd'hui à l'école, on m'a dit shintok. Ils vous disaient quoi, vos parents ? Votre mère vietnamienne et votre père français ?
Rien. Il fallait le subir.
Henriette, il y avait quand même un peu de pression de la part de vos parents pour que vous puissiez vous adapter rapidement. J'ose plus dire le mot intégrer.
Oui, mon père, on n'était pas les seuls. Je l'ai su qu'après. Dans d'autres familles, c'était un peu comme la nôtre. Mon père ne voulait pas qu'on parle vietnamien. Il fallait parler le français, mais nous, on parlait le français déjà. Mais voilà, le vietnamien, il fallait pas trop en parler à la maison. Mais moi, je parlais le vietnamien avec ma mère.
Il disait quoi, votre père, lorsque il vous entendait parler vietnamien avec votre mère ?
Eh bien, qu'il ne fallait pas, parce qu'on était en France et qu'il fallait parler le français. Voilà. Mais comme je dis, on n'était pas les seuls. Il y en a beaucoup dans d'autres familles, c'était comme ça aussi. En fait, je pense que sur le coup, moi j'étais très en colère aussi. C'est pour ça que je voulais parler vietnamien. Mais qu'après, à la longue, j'ai compris pourquoi c'était pour nous aussi, pour notre avenir.
Caroline Nguyen, vous avez quitté le Vietnam dans d'autres circonstances, vous l'avez évoqué. Vous faites partie de cette génération de réfugiés. C'est d'abord votre père qui a quitté le Vietnam tout seul en 1985. Comment ça s'est passé pour lui ? Il est parti dans quelles circonstances ?
Pour papa, c'était très très dur parce que, alors que la guerre est finie, il y avait quand même des tensions. Et donc, comme il ne pouvait plus supporter, il a quitté le pays en cachette, en fait. Donc, dans les bateaux de fortune qu'on connaît d'aujourd'hui.
Donc, ce qu'on appelle les boat people.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les boat people. Pendant 6 mois, papa, quand il nous a quittés, on n'avait pas de nouvelles. Il est parti vraiment en cachette, de peur d'être pris. Parce que s'il se fait rattraper, c'était la prison directe, en fait.
Et vous ne saviez pas s'il était vivant ?
Pendant 6 mois, maman ne savait pas. Et donc, du coup, il a été accueilli par les navires qui accueillent donc les réfugiés. Et du coup, il a atterri à Hong Kong dans le centre d'accueil des réfugiés. Voilà. Et c'est là qu'il a demandé l'asile dans différents pays. Et dont, entre autres, il y avait la France, l'Amérique et le Canada. Et du coup, papa a choisi la France.
Et pourquoi il a choisi la France ?
Parce que c'est personnel, mais papa est aussi végétalien, en fait. Rester dans les centres d'accueil, c'était compliqué pour lui. Et il a postulé pour les 3 pays, mais la France a répondu en premier. Et donc, il est venu en France pour partir vite du centre d'accueil des réfugiés.
Parce qu'à l'époque, il y a eu une grande vague de solidarité de la France pour ces réfugiés vietnamiens. À l'époque, la France a accueilli près de 130 000 réfugiés du sud-est asiatique. À ce jour, d'ailleurs, c'est la dernière grande vague d'immigration dans notre pays. Quels sont vos premiers souvenirs, vous, quand vous êtes arrivé ici, au cœur du bocage bourbonnais ?
Mon premier souvenir, c'était la dictée. Parce que je me souviens, avec Mademoiselle Romieux et mes camarades, donc elle m'a donné un texte, les autres une dictée, et moi j'ai le droit de recopier, mais même en recopiant, je fais des fautes, en fait.
C'était l'institutrice ?
Oui, c'est ça, oui. Parce que je ne comprenais pas le français. Je ne parlais pas du tout le français en arrivant ici à l'âge de 11 ans, oui.
Lorsque votre père est arrivé en France, ça a mis un peu de temps pour vous faire venir en France, avec vos frères et sœurs, votre mère ?
Lorsque papa a quitté le pays et arrivé en France, fallait qu'il travaille, qu'il montre ses preuves d'intégration.
Il a fait quoi comme travail ?
Papa a été ouvrier, en fait, dans la confection de vêtements. Il fait des petits jupes, en fait. Et il lui a fallu un certain temps parce qu'il a réussi à nous faire venir seulement en 91.
6 ans après son arrivée en France.
Tout à fait, oui. Parce qu'il faut du temps, Parce que c'est assez long au niveau administratif. Et puis, il faut qu'il montre aussi qu'il a la possibilité d'assurer sa famille en ramenant ici, oui.
Et la France, ça représentait un rêve pour vous ?
À 11 ans, en arrivant ici, oui, parce que, en fait, je quitte mon petit village. Il y en a, ils se moquent de moi, mais moi, je suis très fière de dire. En 91, on n'a pas l'électricité, on cuisine avec du feu de bois, de l'eau. Et pour moi, je trouve que c'est une chance de connaître la différence, de savoir d'où on vient, de notre petite terre. Je suis fille d'agriculteur. Et en arrivant ici, il y a un décalage d'un siècle, en fait. L'évolution est différente, les gens sont différents, sont de couleur, parce que en 91, dans mon petit village, il n'y a que des Vietnamiens. Et on découvre tout, en fait. Et je pense psychologiquement pour une jeune ado, pendant mes deux premières années, j'ai des vagues. C'est comme si il y a un oubli. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le choc doit être psychologique, doit être quand même dur parce que il y a des trucs que je me souviens pas. C'est parce que le changement est radical, en fait. On a perdu tous nos amis, nos contacts, alors qu'à côté, je sais que c'est une chance et que toute notre famille, on fait tout pour s'intégrer, s'adapter, parce que la France nous accueille à bras ouverts et donc on doit être reconnaissant. Mais il y a quand même un laps de temps pour ma part, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
La différence de culture, de climat, c'était difficile à gérer pour vous, à votre âge, à l'âge de 11 ans.
Autant que c'est dur, autant on se dit on fera tout pour s'en sortir parce qu'on a une chance, alors que d'autres sont restés au pays, ils n'ont pas cette chance-là. Et on s'est rendu compte que en France, les gens le système facilite, nous aide. Donc il faut saisir l'occasion, avancer et puis quelque part investir, redonner ce qu'on peut au pays qui nous accueille.
Et quand votre famille s'est retrouvée ici à Noyon-d'Allier, comment ça se passait à la maison ? Henriette nous disait que chez elle, son père interdisait de parler vietnamien. Comment ça se passait pour vous ?
Nous, c'était différent parce que on est arrivé à une période où, en fait, il y a tous ces expériences, beaucoup d'Eurasiens qui ont accueilli maman. D'ailleurs, les mamies ou les tatas, comme on appelle dans notre jargon, nous ont beaucoup expliqué, aidé. Et ça s'est bien passé à la maison. Non, au contraire, maman nous incite à parler français pour pouvoir s'adapter à l'école. Mais on n'a pas la même ressenti parce que c'est notre culture. Et en plus, nous, on a la chance, c'est qu'à l'école, comme en fait, je parlais pas du tout le français, la maîtresse m'a reculé de 3 classes pour que je sois au même niveau que mes camarades. Donc tous mes camarades ont 3 ans de moins que moi. Et du coup, ça m'a permis de, on va dire, apprendre les bases et évoluer tout doucement.
C'est une histoire totalement différente de la vôtre, Henriette.
Tout à fait, totalement différente. Hein. Moi, je sais qu'au début, j'en voulais au Vietnam.
Pour quelle raison ?
C'est marrant, mais c'est comme ça. Je voulais pas revenir au Vietnam. Ma mère voulait que je fasse un voyage avec elle au Vietnam. Je ne voulais pas.
Vous étiez en colère ?
J'étais très en colère, oui. Je ne voulais pas.
Mais pourquoi ?
Parce que pour moi, en écoutant mes parents, en écoutant ma mère qui se plaignait, ses amis, on était obligés de s'en aller. Donc moi, dans ma petite tête, je me suis fait tout un film. Je ne voulais pas revenir au Vietnam.
Parce que vous aviez le sentiment que le Vietnam vous avait rejeté ?
Oui. Oui, alors c'est ça. Le Vietnam nous avait rejeté, arrivé ici, la France vous rejette aussi. Donc voilà, c'était un petit peu pénible pour moi, c'était dur quand même. Mais c'est qu'après, quand je suis revenue au Vietnam, ça m'a complètement transformée. Dès que je suis arrivée au Vietnam, arrivée à l'aéroport, je me dis, après tout, c'est ton pays. Et là, c'était comme une folle, quoi. J'étais comme une folle. J'allais partout, je discutais lui, je parlais le vietnamien, c'était que du bonheur.
Aujourd'hui, vous sentez vietnamienne ou française, Caroline Guyenne ?
Alors, aujourd'hui, je me sens noyantaise.
Bonne réponse.
Pourquoi ? Parce que, en fait, en étant adulte et maintenant, donc, maman, je trouve que la différence de culture est une richesse. Ça permet d'avoir un autre regard, de voir qu'autre chose existe et de ne pas rester sur les valeurs acquises. Et c'est vraiment pour moi une richesse de savoir qu'il y a d'autres choses. Il y a toujours mieux que soi, mais il y a aussi pire que soi. Et savoir prendre le positif des deux cultures. Et voilà. Donc, non, au contraire, maintenant, je trouve que la différence est une richesse. Mais je pense que la base, c'est qu'il faut qu'on accepte. Et quand on est ado, on ne sait pas, on se cherche. Mais maintenant, en étant adulte, oui, je fais 1m50, j'ai des modèles footballeurs, ça ne fait rien. J'ai les yeux métis, ça ne fait rien. On accepte comment on est et on vit beaucoup mieux. Autant je parle d'intégration et adaptation, ça ne veut pas dire qu'on renie nos passés et qu'on oublie. La richesse, c'est aussi savoir d'où on vient. Et je trouve que c'est important donc, de transmettre la culture qu'on a reçue, la culture vietnamienne, et vivre en harmonie avec la culture de notre pays d'accueil. Enfin, je pense que d'aujourd'hui, par rapport au niveau du contexte national, c'est vraiment un discours qu'il faut entendre. C'est que plus on est différent, plus que c'est une richesse pour les pays. Vous imaginez si vous rencontrez tous que des yeux bridés ou que des blondes, que vous allez dans le monde, vous revoyez la même personne, votre copie conforme, et qu'est-ce que le monde sera ennuyeux. Donc je trouve que la richesse, que ce soit en termes physiques, culture, c'est important que ça soit différent, et c'est ça qui nous permet de voyager, d'être bien.
Preuve du lien fort qui lie Noyon d'Allier et la communauté vietnamienne, c'est l'immense pagode qui trône au milieu de la ville. On ne peut pas la rater avec son Bouddha géant doré. Cet édifice haut en couleur est sorti de terre il y a 38 ans. Près de 30 000 touristes y passent chaque année. Visite guidée avec Lac Nou, la très dynamique moniale de 87 ans.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
C'est une prière là que vous avez récitée, Lac Nou.
Oui, c'est hommage au Bouddha Sakyamuni, c'est-à-dire le Bouddha historique.
Et là, vous parliez en vietnamien.
Ma langue maternelle, oui.
Lac Nou, ici, on est où?
Alors ici, c'est le lieu de culte, pas proprement parler.
Hein. C'est l'hôtel.
L'hôtel, voilà. Les moines font leurs prières, leurs offices ici. Alors vous avez sur l'hôtel la statue du Bouddha. Et ces deux statues-là, ce sont des statues qui sont des êtres appelés à devenir Bouddha. On les appelle des bodhisattvas. On retrouve la racine, bodhi aussi, qui veut dire l'éveil. Voilà. Donc ce sont des êtres d'éveil. Le Bouddha, c'est l'éveillé. Je vais vous faire entendre les cloches, d'accord? Et ça, c'est pour les grandes cérémonies.
Lac Nou, on va sortir du temple, de la pagode. On va voir les magnifiques statues de la pagode, des statues de Bouddha qui sont immenses. Je pense qu'elles doivent bien faire une vingtaine de mètres, oui.
Alors ça, c'est le grand Bouddha de méditation.
Quel était le projet lorsque cette pagode a été construite en 1983?
Les catholiques, il y avait beaucoup de catholiques aussi. Hein,
parmi les Vietnamiens?
Oui, oui. Et ils avaient l'église, donc pour eux, il n'y avait pas de problème. Mais pour les bouddhistes, il n'y avait rien. Donc, ils ont émis le projet de construire une pagode. Ils ont loué le terrain à la municipalité. Ils ont appelé tout le monde. Allez, amenez-vous avec votre huile de coude et votre porte-monnaie.
C'est comme ça que cette pagode a été totalement financée par les croyants, les fidèles.
Oui, 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 oui.
Au départ, vous nous l'avez expliqué, c'était pour des raisons spirituelles qu'a été construite cette pagode, mais on voit là que c'est plus large que ça aujourd'hui.
Oui, oui.
C'est un lieu de visite, là, on est entouré de touristes.
Alors, allez-y, demandez-leur si vous voulez, si ça vous intéresse.
Je vais aller les voir. Bonjour, vous venez d'où ?
De Seine-et-Marne.
Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui en couple ?
On voulait visiter la région, on a vu qu'il y avait cette pagode et on voulait vraiment la visiter. On a des amis qui étaient venus il y a quelques temps et ils nous avaient dit que c'était formidable et magnifique et pour ça qu'on est voulu voir.
Et ça vous plaît alors ce que vous voyez ici là ?
Oui, ah, oui. Oui, moi je trouve ça magnifique.
C'est zen, c'est cool. C'est,
oui. Très calme. C'est la première fois que j'en vois une et je trouve ça formidable de voir ça en France.
Et pourtant, en France, on connaît des problèmes avec les religions.
Oui.
Oui, c'est vrai.
Les gens qui sont venus là pour travailler, ils ont leur lieu de culte. Ils sont quand même pas venus pour rien.
Toutes les religions ont leur place.
Bonne visite.
Merci.
Merci.
Bonne continuation à vous.
Il y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. Dans les jardins de la vertu, Minerve s'habille en guerrière. Mais moi qui ai rien d'un Montaignard, de la croix, je la peins sur les traits d'un vin. Dans la poussière, les bras en croix. Dans la poussière, les bras en croix. Il y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. Je me sens comme un ange déchu qui se serait trompé d'atmosphère. La première meuf que j'ai connue m'a expulsé à 4 du mat. dans une maternité perdue, qui fabriquait des automates, qui fabriquait des automates. Il y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. J'évolue et je vole à vue, loin des circuits réglementaires, avec mes pensées qui s'encrassent dans le froid de mes nuits d'exil. J'arrive plus à faire cette grimace qui sert de rire aux imbéciles, aux imbéciles. Il y a du soleil dans ma rue. Il y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. La fille du soldat inconnu me dit putain bon militaire, avec l'arsenal souterrain planqué à l'abri de tes lois. Chacun des 7 milliards d'humains peut être tué 40 000 fois. Tué 40 000 fois.
C'était Hubert Félix Tiphaine avec son dernier titre, Du soleil dans ma rue. Vous écoutez France Inter, on a rendez-vous place du marché à Noyant-d'Allier en Auvergne. On est toujours avec Caroline Guyenne et Henriette Neff, deux ambassadrices de ce lien entre la France et le Vietnam. Deux nouveaux invités nous ont rejoints pour un tout autre sujet. Lucille Gors et David Blouet, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Antoine.
Voilà, il y a un tracteur qui passe juste derrière vous. Vous ne travaillez pas ensemble, mais vos activités sont complémentaires. David Blouet, vous êtes le fondateur de la Libricyclette, une librairie indépendante ambulante. Vous vous déplacez avec vos livres sur votre vélo dans le bocage bourbonnais. Et vous, Lucille Gors, vous avez fondé Le Bouillon, un café culturel itinérant un peu plus au sud de l'Allier. Pour ça, vous avez opté pour la caravane. Quel est votre périmètre d'action, Lucille ?
Aujourd'hui, beaucoup autour de Vichy et de Saint-Pourçain-sur-Sioule, mais petit à petit, le projet se développe. Et puis finalement, ce projet, il a du sens sur le département de l'Allier dans son ensemble.
Qu'est-ce que vous proposez concrètement ?
Et bien, concrètement, la caravane s'installe, déploie une petite terrasse. Donc il y a une offre de bar et de restauration à partir de produits locaux. Et puis on y ajoute des animations, des ateliers et puis des spectacles qui sont donnés par des artistes du territoire.
Et quel type d'atelier vous proposez ?
Alors, soit des ateliers de loisirs créatifs, type création de cartes postales, de portraits, de macramé, des choses comme ça. Soit des ateliers de pratique artistique, puisque quand je fais intervenir des artistes le soir, je leur demande toujours de prévoir un petit atelier dans l'après-midi, dans l'idée de vraiment créer un lien avec le public, qui soit pas seulement celui d'un spectateur passif, entre guillemets, mais celui d'un acteur aussi.
Et on peut aussi se nourrir chez vous ?
Mais bien sûr, on nourrit le corps et le cœur et l'esprit.
Et vous proposez quoi, par exemple, au niveau de la nourriture ?
C'est des plats qui sont faits maison hein, le jour même. Donc, c'est des plats à partager dans l'esprit de convivialité. Des tagines de poulet, des paellas, des lasagnes, voilà, des plats conviviaux.
Conviviaux et aussi des plats locaux et bio.
Exactement. L'idée, c'est de valoriser les initiatives locales et les acteurs locaux. Et ce, donc, à la fois sur le plan artistique, mais aussi sur le plan des producteurs. On trouve quasiment 90% de ce dont on a besoin pour se nourrir tous les jours ici. Il y a des beaux producteurs, donc j'essaie de valoriser ce qu'ils produisent ici.
Et d'ailleurs, vous voulez monter des projets avec les écoles et les EHPAD. L'idée, à chaque fois, c'est de lier art et alimentation.
Oui, les deux dialoguent très bien, à la fois par les questions d'ouverture, de voyage. Ce sont deux moyens de s'évader. Et puis la culture est parfois une bonne introduction pour parler de sujets complexes comme celui de l'alimentation, et puis inversement.
Et quand vous vous déplacez comme ça avec votre caravane, ça se passe comment ? Vous restez longtemps sur place, juste quelques heures, une journée, deux journées ?
J'essaie de rester quelques jours. Encore une fois, l'idée du bouillon, c'est vraiment de créer du lien, de pouvoir s'installer un peu dans le paysage, de réussir à faire venir aussi un public qui ne serait pas forcément allé juste un soir à un spectacle. Donc, de les attraper le matin au marché, de les recroiser l'après-midi, de leur proposer de venir le soir. Voilà. Donc, on reste 2-3 jours dans l'idéal, dans les endroits dans lesquels on s'implante.
L'idée est d'apporter la culture aux gens qui ne se l'autorisent pas. C'est très vrai à la campagne en plus.
Oui, c'est très vrai à la campagne, soit parce qu'on n'en a pas l'habitude, soit parce qu'on en est loin, soit parce qu'on n'en a pas les moyens. Donc on essaye de travailler sur tous ces axes-là.
Est-ce que c'est la même démarche que vous avez, David Blouet? C'est ce que vous faites avec votre librie-cyclette, votre librairie ambulante à trois roues. Pouvez-vous nous le décrire? On est devant là, votre engin.
Alors cette machine, c'est un vélo cargo. Donc un vélo cargo, en fait, c'est un vélo adapté pour le transport de marchandises. Donc en fait, faut imaginer un tricycle avec un plateau sur lequel on a fixé une boîte que j'ai moi-même dessinée.
On peut pas le rater, il est jaune, éclatant, alors, écarlate.
Alors jaune, ça c'est à la fois pour la visibilité et pour la sécurité sur la route. Je suis quand même avec un engin qui fait presque 1m50 de large. Donc j'occupe la chaussée, hein, je roule en mode tracteur en général. Et évidemment, en tant qu'entrepreneur à vélo, je sensibilise de fait aux mobilités douces, partage de la route pour tous, et donc partage de la culture pour tous sur le bocage bourbonnais.
Parce que vous avez aussi une boutique, mais vous aussi, comme Lucille, vous vouliez aller vers les gens, apporter la culture aux personnes qui ne se l'autorisent pas.
Oui, alors ça fait plus de 4 ans maintenant que j'exerce cette activité de cette façon. Il faut savoir qu'en fait, j'ai démarré avec le vélo cargo. Dans mon vélo cargo, je peux transporter jusqu'à 250 ouvrages. Et le concept, en fait, c'est avec une sélection ad hoc, aller sur les marchés, les festivals, les événements locaux, donc souvent thématiques. Je suis un peu caméléon, je prends la couleur de l'événement. Donc ça, c'est le concept de base. Mais en fait, très vite, j'ai à gérer un stock de plus de 1000 ouvrages. Je peux pas tous les transporter sur le vélo. Et sur la période de fin d'année, qui est la grosse période de commerce pour les libraires, il me fallait un endroit pour montrer l'ensemble de mon stock. Et avec le Covid, l'an passé, on savait pas trop ce qu'on allait pouvoir faire avec nos boutiques en dur, nos magasins. Je me suis lancé dans la création d'une tournée. Ce qui est pas évident, hein, parce que je rappelle ici que le projet de la librairie à vélo, en fait, c'est gagner le pari de faire vivre un commerce de librairie indépendant dans une zone rurale à habitat dispersé. Économiquement, c'est un sacré pari. Et je m'étais toujours refusé à mettre en place une tournée pour pas y perdre d'énergie, de temps et tout ça. Mais le Covid m'a forcément... Et puis l'expérience, au bout de 3 ans et demi les dernières, l'expérience m'a dit bah, c'est le moment. Donc j'ai créé en fait ces tournées avec des acteurs de certains villages qui sont éloignés de Bourbon-l'Archambault, là où est le cœur de l'activité et là où se trouve la boutique, pour garder le contact et renforcer les liens.
Et vous aviez remarqué qu'il y avait des clients qui n'osaient pas entrer dans votre boutique.
Le cœur de cible d'une librairie, ça va être les catégories socio-professionnelles supérieures. J'ai de la chance de vivre sur un territoire qui est hyper varié. Évidemment, j'ai ce public-là, mais il y a tout un public ouvrier, autochtone, rural, qui peut être aussi peu argenté. L'idée d'aller vers ce public-là avec les livres, c'est aussi leur montrer qu'il y a des possibilités de se faire plaisir.
Et que ça s'adresse à eux.
Et que ça s'adresse à eux. Et qu'ils ont un libraire qui est là pour les conseiller. Et ça, c'est du lien humain, en fait. Hein. C'est la première qualité de... Je trouve de mon métier, le livre est un prétexte. Aller à la rencontre des gens sur mon territoire, c'est super.
C'est ça, vous considérez comme un tisseur de liens.
Exactement.
Pas juste un libraire.
Exactement. L'ambition du projet, c'est ça. Après, je dois rappeler ici, je suis un ancien travailleur social. Donc forcément, j'ai ça dans mon ADN. Ce que j'apprécie le plus, c'est de pouvoir être en contact avec un ensemble de communautés très très diverses, qui ne se côtoient pas forcément. Comme l'analyse Michel Maffezoli, on est un petit peu dans la société des tribus. J'aime bien cette image. Le fait social s'est recentré sur du micro-local. Et c'est super chouette de vivre un territoire, de voir toutes les initiatives qui s'y passent. Et c'est une sacrée diversité, quoi.
Et vous faites beaucoup de kilomètres avec votre tricycle ?
Je les compte plus. Il faut savoir que la tournée complète, pendant une semaine par mois, c'est 300 km. Donc c'est un mini road trip en bourbonnais. C'est génial. La centaine de kilomètres par semaine est vite atteinte.
Lucille Gors, est-ce que vous aussi, vous êtes une tisseuse de liens avec votre caravane ?
Oui, tout à fait. Rapprocher les gens, trouver effectivement des prétextes, les rassurer dans ce contexte aussi pour se retrouver à nouveau. Tisser des liens entre les habitants, entre les territoires aussi, puisque parfois on habite à quelques kilomètres d'une autre commune dans laquelle on n'a jamais mis les pieds. Donc peut-être que s'il s'y passe quelque chose, ça va être un prétexte aussi pour aller rencontrer ses voisins qu'on n'a jamais vus. Et puis tisser des liens entre les artistes et entre les producteurs qui parfois n'ont pas forcément non plus l'occasion de se rencontrer et qui là trouvent un espace de rencontre et d'échange.
Justement, Lucille Gors, on assiste à un phénomène étonnant dans l'Allier. De plus en plus d'artistes viennent vivre dans le département. Le problème, c'est qu'ils ont du mal à être programmés. Comment ça s'explique, ça ?
Bah, il faut un petit peu de temps pour s'installer, pour tisser ces liens justement, pour que finalement les lieux et les programmateurs prennent conscience des richesses qu'on a sur le territoire et que petit à petit, ces artistes soient valorisés à leur juste valeur.
Alors justement, ce qu'on entend comme musique de fond, c'est une artiste qu'on va recevoir, c'est Pauline Ohayon. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Vous êtes peintre et accordéoniste, vous êtes originaire de la région d'ici, vous, pour le coup vous êtes d'ici.
Eh bien mes parents sont venus dans la région quand j'étais petite, 7 mois, et ils ont décidé de s'installer, donc ma mère venait de Normandie et mon père de la région parisienne. Et juifs marocains aussi, donc déjà expatriés aussi en France. Et ils ont décidé de s'installer là pour surtout le lien social, le lien entre les gens qu'il y avait. Il y avait vraiment un réseau qui leur a vraiment plu. Et la nature, bien sûr.
Et vous, Pauline, vous voulez défendre les musiques traditionnelles du centre de la France ?
En fait, j'ai une formation. Le morceau que je viens de jouer, c'est de mon professeur de Bourbon, du coup, qui l'a créé. Et j'ai une formation traditionnelle, donc c'est celle que je joue. Je la défends, je l'aime parce que c'est aussi une musique de lien, parce qu'on la joue, il y a beaucoup de transmission orale. Moi, je ne sais pas lire les notes, par exemple. Donc pour l'accordéon, on a un système de tablature, de doigté, et aussi vraiment, on apprend à l'oreille. Et la musique traditionnelle se transmet surtout en jouant ensemble.
Pauline Ohayon, vous avez accepté de nous interpréter un morceau. Quel est le titre et ça parle de quoi ?
Alors ça s'appelle L'Inconnu de Limoise. En fait, c'est Cornemuseux et Vielleux qui l'a composé. C'est Maxou de son surnom. Et ça parle d'une personne qu'on a dû changer de cimetière. Donc Limoise, c'est un village qui est pas loin. Et on a dû le changer de cimetière. On a découvert qu'il avait été enterré avec sa cornemuse pour partir pour le grand voyage, quoi. Et on l'a laissé avec cette cornemuse.
Mais c'est une légende ou c'est une histoire vraie ?
C'est une histoire vraie. Qui a été mise en chanson et puis en musique.
Pauline Ohayon, on vous écoute. Merci beaucoup Pauline, merci beaucoup. Ça vous a plu Caroline Guyenne ?
Oui, c'est magnifique. C'est une musique, je trouve que beaucoup d'émotions en fait. Ça parle au cœur. C'est très beau, c'est magnifique.
Vous, la culture bourbonnaise, vous y êtes attachée ? On vous l'a transmise cette culture-là à l'école, ici ?
On vit, nous, dans le Bourbonnais, donc on vit pleinement. Après, c'est la culture, on va dire, de nos ancêtres qui est transmise, mais la culture bourbonnaise, on y vit pleinement. Ah oui, oui, c'est important à 200%.
C'est clair, oui, c'est clair. Oui, on y est dedans. Hein. C'est un partage, hein. Tout ça, ce sont que des partages. Hein.
Pauline Ohayon, le morceau que vous avez joué, c'est un morceau assez connu dans la région.
Ouais, et je pense qu'il est même connu plus loin que la région, parce que comme les musiciens... peuvent se rencontrer par exemple à Gentine, pas loin de Moulins, il y a le Grand Bal de l'Europe. Et donc il y a des musiciens de l'Europe entière et même d'autres continents qui viennent, qui font des balles, qui font des ateliers et qui jouent ensemble tout le temps, la nuit, le jour. Et ces morceaux, du coup, ils voyagent en les jouant ensemble.
Pauline, Lucille et David, restez avec nous, c'est bientôt l'heure de l'apéro. On va déguster les merveilles culinaires de Caroline Guyenne et on s'intéressera aussi au quotidien pas toujours simple de certains maires de campagne. C'était Maple Glider avec Swimming.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Antoine.
On est ce matin à Noyon-d'Allier en Auvergne. On a quitté le marché avec tous nos invités pour rejoindre la terrasse de votre restaurant Caroline Guyenne, le Petit d'Asie. Merci de nous recevoir. Vous avez même mis une superbe robe, la robe typique du Vietnam, ce qu'on appelle Áo Dài.
Oui, c'est vraiment la robe traditionnelle que nos ancêtres ont portée. Et donc, je tiens à mettre en avant pour bien vous accueillir. Et puis, ça fait voyager nos hôtes quand ils viennent et qu'ils nous voient en tenue traditionnelle.
C'est une tunique longue qui est fendue sur les côtés?
Tout à fait. Donc, c'est une robe qui est fendue très, très haut. Et on porte toujours avec un pantalon très large.
Alors, c'est l'heure de l'apéro et aujourd'hui, on vous emmène bien sûr au Vietnam. Grâce à vous, Caroline, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon?
Donc là, je vous ai préparé un cocktail déjeunatoire avec, bien sûr, le traditionnel nem au porc.
Les pâtés impériaux.
On appelle aussi pâté impériaux et on a aussi le zor à côté. Hein, donc là, c'est pâté au porc, là, du coup. On a aussi les samoussa au bœuf, donc les fameux beignets crevettes. Et à côté, on a les mini-nems porc et crevettes, crevettes et crabes, et des raviolis aux légumes et des beignets pinces de crabe. L'idée, c'est vous permettre de goûter à nos saveurs le temps d'un cocktail.
En tout cas, ça sent très bon. Allez-y tous goûter les plats là, que nous a préparé Caroline. Il y a même à boire.
Je propose même des produits locaux avec du blanc de blonde de 5%. On joue le jeu du territoire.
À consommer avec modération, évidemment.
Tout à fait.
Il faut savoir que la cuisine vietnamienne, elle est très réputée, mais on le sait moins. Pas mal des plats ont des origines françaises, grâce ou à cause de la colonisation. Par exemple, le plat national, le pho, cette soupe de bœuf et de pâte de riz qu'on mange au petit déjeuner, est directement inspiré du pot-au-feu.
Oui, c'est un plat qui est très connu et donc nous on le fait aussi sur commande, qui est fait avec un très très bon bouillon à cuire pendant des heures. Donc on, en général, donc le bouillon cuit pendant des heures, donc du bœuf bien cuit, du bœuf saignant et du bœuf haché en boule avec des pâtes de riz très larges et les basilic thaï et les feuilles longues, je sais pas comment on appelle ça, qui parfument donc la soupe. C'est un plat qui est très très réputé au Vietnam. Mais nous ici on a ça et on a aussi sa cousine, la soupe saïgonaise, qui est le même principe, donc pâte de riz avec un peu de tapioca, borlaqué et crevettes, donc qui est aussi c'est une très bonne soupe aussi.
Voilà. Il y a aussi le pho bòi khoai, qui est inspiré du bœuf bourguignon français.
Oui, ça aussi, on le fait. Pour l'instant, on le garde pour nous. Par contre, on le fait, mais maison. Le bòi khoai, oui, effectivement, c'est un gros morceau de bœuf bien cuit. Donc, mon conjoint, il le fait avec, une pincée donc de saté, bien cuit, bien mijoté, carottes. Et c'est vrai qu'on peut manger ça avec des vermicelles cuits donc à l'eau ou avec du pain. C'est très bon aussi.
Et justement, le pain, il y a le fameux sandwich vietnamien, le banh mi, et qui est directement inspiré de la baguette française que les Français ont emmené au Vietnam.
Ah oui, oui, là d'ailleurs aussi, souvent quand on reçoit des cartes, on rigole parce que les gens me demandent du pain. Alors je leur dis, là vous avez fait un voyage culinaire, donc chez nous, le pain on réserve pour les sandwichs. Mais là, comme vous êtes à table, il n'y aura pas de pain. Mais effectivement, le banh mi, c'est pareil, ça fait partie des plats traditionnels au Vietnam où on peut manger à n'importe quelle heure.
On va accueillir un convive supplémentaire autour de cet apéritif. Quelqu'un qui a profondément marqué Noyon d'Allier, c'est l'ancien maire de la commune, Michel Lafay. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été l'idylle de la commune durant 20 ans. Si vous n'avez pas fait de quatrième mandat, ce n'est pas à cause d'une défaite aux dernières élections municipales. Non, c'est vous qui avez décidé d'arrêter. Pour quelle raison ?
Alors j'ai fait à peine 20 ans, quand même déjà. J'ai décidé parce que j'estime que 3 mandats, et un peu plus, c'est assez. C'est une fonction très, très épuisante hein, quand même, et surtout en milieu rural. J'appuie vraiment sur le milieu rural. On est une commune de 700 habitants. Et je dois dire, et mon successeur pourra témoigner également, on est 24 heures sur la brèche. 24 heures sur 24, on est sur la brèche.
7 jours sur 7 ?
7 jours sur 7, effectivement, il n'y a pas de week-end, voilà. Mais c'est tellement enrichissant, c'est tellement passionnant, et quand on rend service à nos concitoyens, je veux dire, c'est agréable, et puis on se laisse prendre au jeu, à la fonction, et on y donne tout ce qu'on a en nous-mêmes.
Mais on peut se dire que lorsqu'on est maire d'un petit village, c'est plus facile que d'être maire d'une grande ville. Et en fait, le paradoxe, c'est que non, c'est le contraire.
Voilà, je pense que c'est différent. Mais nous, on n'a aucun chef de service, directeur et autres. Le maire répond à toutes les questions qui se posent tous les jours, du matin au soir. Donc tout passe par le maire, par l'élu ou par les adjoints, bien sûr. Faut parler d'équipe aussi. Quand il y a un petit souci sur la voirie dans une grande ville, le citoyen ne prend pas son téléphone en appelant le maire.
Il appelle le standard de la mairie.
Ouais, et puis je sais même pas s'il y en a, effectivement. Et donc nous.
Alors que vous, c'est directement sur votre téléphone portable qu'on appelait.
Voilà, ouais, tout à fait, oui. Oui. Alors j'aime bien raconter une petite anecdote qui m'est arrivée au cours de mes mandats. Quelqu'un qui a appelé le matin de très tôt en disant: Monsieur le maire, ça va pas, il y a un crottin de cheval dans la rue. Et c'était un week-end. Donc, à la limite, je devais aller enlever ce crottin de cheval. Je ne l'ai pas fait parce que j'estimais que ces personnes pouvaient le faire. On a tous des pelles à la campagne ou autre. Voilà un petit peu le genre de problème qui se pose au quotidien dans nos fonctions.
Parce que tout le monde se connaît ici dans le village. Ah bah donc oui, tout le monde a votre numéro. C'est pas le numéro. On n'a le 06 du maire, on a le 06 de Michel.
Ah, tout à fait. Il suffit d'aller voir sur Internet, sur le bottin, et on retrouve Michel Lafay, comme on retrouve Yves Petiot, mon successeur, sans problème.
Et bah, y a les listes rouges. Pourquoi vous n'êtes pas mis en liste rouge ?
Eh bien, parce que Dans nos communes rurales, je veux dire, on fait partie de la population, on est intimement liés et ben on est là pour rendre service. Je dis bien, il y a des fois des choses importantes qui se passent et qu'il faut auxquelles il faut répondre très rapidement et donc on est là pour le faire.
Oui. Parfois, on vous a appelé pour des maris violents qui voulaient assassiner leur femme. Et là, c'est pas le raid qu'on appelle, ouais. Le négociateur du raid, c'est le maire pour négocier justement que cet homme n'assassine pas sa femme.
Voilà, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Souvent, ça se passe en pleine nuit. Donc on est amené à prendre des décisions des fois très difficiles, qui peuvent être lourdes de conséquences. Et faut pouvoir les prendre, ces décisions, dans la minute qui suit. C'est des choses pas faciles, vous le comprenez. Alors pour une petite histoire, là aussi, pas très loin d'ici, une fois, les gendarmes ont été appelés par justement pour un problème de couple. Et en arrivant, les gendarmes me disent « Vous connaissez le monsieur ?»« Oui, oui, je connais. Ben, allez donc discuter avec lui. »
Il était armé, cet homme ?
Alors oui, on a su qu'il était armé. Enfin, j'ai vu d'ailleurs. J'y suis allé, effectivement. Mais nos gendarmes sont habillés, et ce qui est tout à fait normal, gilet pare-balles, et nous, on y va en chemisette, tranquillement. Et je rentre à la maison, j'avais réussi à négocier, que tout était fini, ça allait bien se passer. Hop, recoute téléphone, et là, j'ai dû repartir, parce qu'il y avait une nouvelle menace de la part de ce citoyen. Voilà. On règle ces problèmes-là. Faut aussi parler des conjoints ou conjointes d'élus, hein, dans les conditions qu'on vient de décrire. C'est du 24 heures sur 24. Bon, il y a déjà des répercussions à ce niveau-là sur la vie familiale.
Et ça a quelle incidence sur votre morale, sur votre santé?
Effectivement, beaucoup, beaucoup de stress. Et de là, on a découlé des problèmes de santé.
On peut en parler ou vous préférez pas?
J'ai fait un début d'infarctus, voilà, tout simplement.
Et c'est vraiment à cause de vos fonctions ?
Oui, je pense en grande partie, hein, parce que ça a été un stress permanent.
Et est-ce que vous avez été confronté à de la violence en tant qu'élu ? Est-ce que vous avez été menacé au cours des trois mandats que vous avez exercés ?
Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Bon, j'ai jamais été frappé directement, même si ça a été...
Limité. Pas loin ?
Oui, pas loin, limite.
Pour quel type de raison on vous menaçait ? Pour des choses anodines ou des choses graves ?
Pour moi, ce sont des choses anodines. Des fois, un manque de compréhension, de dialogue, de discussion. Pourtant, je pense que j'étais très ouvert. Mon bureau était ouvert à tout le monde. La porte n'a jamais été fermée. Mais c'est un problème de plus en plus récurrent dans beaucoup de communes, y compris les communes rurales.
Et comment vous avez géré cette violence ? On ne s'y attend pas, on n'est pas préparé pour ça quand on est maire.
Effectivement, on n'est pas préparé et il faut répondre malgré tout, très rapidement, et faire face à ces agressions. Je me rappelle entre autres une où elle avait été particulièrement violente. Ben, j'ai eu peur à un moment donné, hein, parce que quelqu'un qui, pour moi, avait perdu complètement la tête et était prêt à faire n'importe quoi.
Et comment vous avez géré cette situation ?
En essayant de rester calme, très calme, j'ai réussi et j'ai réussi à m'en sortir jusqu'à maintenant.
Vous devriez demander au RET s'ils n'embauchent pas des négociateurs là en ce moment, parce que vous avez l'air d'être bon.
Oui, effectivement, oui. Ça pourrait être une petite transition avec ma retraite d'élu.
Là, il y a tous les invités qui dégustent les saveurs de Caroline Guyenne. David, alors bon, je vous posais la question, là, vous avez la bouche pleine, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est bon ?
C'est délicieux.
Pauline, qu'est-ce que vous avez goûté ? Qu'est-ce que vous avez aimé ?
J'ai pratiquement tout goûté. J'ai tout aimé, c'est très très savoureux. Merci beaucoup.
Il faut remercier Caroline Guyenne pour son accueil. En vietnamien, merci, ça se dit Kamang.
Oui, Kamang An.
Kamang à vous. Merci à tous. Merci à Olivier Tamin pour son aide. Cette émission a été réalisée par Théo Raison. Marion Philippe l'a préparée avec l'aide de Julia Martin. Kamang à toutes les deux. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Lundi, vous retrouvez Aurélie Fez à l'Odev dans le Larzac.